Monique, aujourd'hui, vous nous parlez de télétravail.
Je vous parle de télétravail. Alors, c'est sous la plume d'Alexandra Lecourt qui, comme je vous le disais en présentation, est professeure titulaire au département d'ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un article qui a été publié dans la Conversation du 20 mai dernier. Alors, le télétravail n'a pas seulement offert de la flexibilité, mais il a aussi réduit des obstacles que le présentiel rendait incontournables. Quand une organisation ferme ses portes, elle ne revient pas à un état neutre. Elle réinstalle une norme qui avantage certains profils de personnes et en fragilise d'autres, notamment des personnes ayant des incapacités. Ces derniers, par ailleurs, il faut le noter, forment une proportion importante de la population active, signe de la diversité de la main-d'œuvre canadienne. Le recours plus étendu au télétravail dans les dernières années, ça a été enclenché, on se rappelle, par cette pandémie que nous avons tous subie, ça a modifié concrètement les conditions d'accès au travail pour certains groupes et a permis à des personnes ayant des incapacités de participer au travail en réduisant des contraintes du présentiel, comme le transport ou la rigidité d'horaire. Revenir à une norme de présence sans tenir compte de ses effets ne constitue pas un simple retour en arrière. Ça peut aussi signifier un recul par rapport à des formes d'inclusion qui s'étaient progressivement instaurées. Les employeurs qui prônent le retour au présentiel invoquent l'efficacité collective, la créativité, la cohésion et le mentorat. Bon, on peut pas nier que ces objectifs comptent, mais une règle identique ne convient pas à tous, puisque la présence obligatoire n'impose pas le même coût de participation selon les personnes. En tant que professeure en ergothérapie à l'UQTR et chercheuse au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, Alexandra Lecourt s'intéresse depuis plus de 15 ans à la participation au travail des personnes ayant des incapacités. Ses travaux ont documenté comment le télétravail peut soutenir une participation durable à condition d'un encadrement adéquat et de ressources appropriées. Ainsi, à partir de résultats d'études menées au cours des 5 dernières années, elle examine comment le retour massif au présentiel risque de fragiliser l'accès équitable au travail en transformant un levier d'accessibilité en exception précaire. Le retour uniforme au bureau réaffirme une norme implicite, celle d'un travailleur mobile, disponible et stable sur le plan fonctionnel. Il impose des exigences qui semblent ordinaires, mais qui deviennent sélectives dans leurs effets. Dans une étude portant sur le télétravail chez les personnes ayant des incapacités motrices et sensorielles, celle-ci explique que le travail en présence ajoute des contraintes qui diminuent leur capacité à travailler, même quand les tâches à effectuer restent les mêmes. Par exemple, le déplacement ressort comme contrainte majeure, surtout lorsque le transport adapté impose des délais, de l'attente et une planification lourde. Le télétravail permet de récupérer ce temps et de préserver l'énergie et la disponibilité. On pourrait ajouter le stress qui est en moins, n'est-ce pas? Une autre étude menée auprès de personnes souffrant de douleurs chroniques abonde dans le même sens. Les personnes participantes rapportent que la flexibilité d'horaire et la possibilité d'organiser les pauses favorisent une expérience de travail plus soutenable. Elles décrivent la possibilité de changer de position, de s'étirer ou d'appliquer de la chaleur, par exemple, comme des stratégies plus faciles à intégrer à domicile. Ces bénéfices n'éliminent pas les risques, bien sûr. Les personnes rencontrées évoquent l'isolement et la difficulté à maintenir des limites temporelles. Elles estiment néanmoins que le télétravail reste pertinent comme mesure d'accommodement lorsque l'organisation reconnaît ces risques et met en place des balises pour les prévenir. La réaffirmation du présentiel comme norme modifie le statut du télétravail. Dans une troisième étude menée auprès de gestionnaires, cette fois, les personnes participantes décrivent une gestion au cas par cas, où les décisions reposent sur les arbitrages entre bénéfices, fonctionnement de l'équipe et perception d'équité. Cette logique entraîne des pratiques différentes selon les équipes et selon les gestionnaires. Une personne peut obtenir un arrangement dans une équipe, mais pas dans une autre, ou le perdre lors d'un changement de gestionnaire. Donc, l'accès au télétravail devient alors moins prévisible. Il faut mentionner et souligner que le cadre légal contribue aussi à cette logique. La jurisprudence récente rappelle que le télétravail n'est pas un droit systématique. Un employeur peut exiger la présence sur site lorsque les tâches le requièrent. Une décision québécoise a confirmé le refus d'un télétravail exclusif à long terme en retenant que la présence sur site demeurait essentielle aux fonctions et que cet accommodement pouvait constituer une contrainte excessive. Dans les milieux de travail, cette lecture peut renforcer l'idée que le télétravail doit être démontré et documenté dans chaque situation, ce qui place plus souvent du côté de l'exception que de la règle. Cette logique d'exception fait du télétravail donc une entente à négocier plutôt qu'une modalité organisée. Elle déplace l'enjeu vers le quotidien des équipes où l'encadrement du gestionnaire, devient déterminant. Une revue portant sur des travailleurs ayant des enjeux de santé suggère que le télétravail s'associe le plus souvent à une diminution de l'absentéisme, tout en indiquant un risque de travailler en étant malade lorsque le cadre demeure insuffisant. Ce risque devient plus plausible lorsque l'accès dépend d'arrangements au cas par cas, parce que les règles restent floues et manquent de stabilité. Dans ce contexte, des gestionnaires rapportent un manque de ressources et des dilemmes éthiques lorsqu'ils arbitrent entre accommodement, équité, productivité et santé au travail. Ainsi, la précarité de l'accès et l'encadrement variable influencent concrètement la capacité de travailler des personnes ayant des incapacités et de le faire sans détériorer leur santé. En conclusion, le retour au présentiel ne pose pas seulement une question d'organisation des bureaux. On a entendu, n'est-ce pas, Hélène, que dans certains bureaux, il n'y a plus d'espace suffisant. Mm-hmm. Il pose une question d'accès au travail. Quand l'accès au télétravail dépend d'exceptions, les employés deviennent vulnérables aux variations de contexte et aux changements de gestion. Une organisation peut transformer le télétravail d'une exception fragile en levier d'inclusion durable en définissant des règles claires, stables et prévisibles qui garantissent un accès au travail possible, soutenable et équitable pour tous. Alors vivement que ces règles soient mises en place pour favoriser justement le télétravail auprès de personnes qui auraient des incapacités dont on a évoqué dans cet article.
Très intéressant texte d'Alexandra Lecour, professeure titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Monique, savez-vous comment les Français nomment le télétravail?
Oh mon Dieu, j'imagine un terme anglais, je ne sais pas.
Non, c'est tout simplement TT.
Oh non, TT.
N'oublie pas, je suis en TT demain.
Ah bon, donc. Alors ça pourrait être en TT d'un bébé, mais bon.
Oh oui, mais ici, ce sont les deux lettres, TT.
Oui, d'accord.
Merci Monique, merci Yvan. On se quitte ici, puis on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère.
Oui, tout à fait, au plaisir.
Au plaisir.